Boulon manquant, votre rendez-vous neurosciences. L'émission dans laquelle nos neurones roulent des mécaniques. Un jeudi par mois, à 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
L'article du jour s'intitule « Cell type and locus-specific epigenetic editing of memory expression » ou « Comment comprendre le lien entre épigénétique et mémoire ». Il est paru dans la revue Nature Genetics le 29 octobre 2025. Chère tête bien faite, bonsoir et bienvenue au Boulon manquant. Ça y est, nous entrons dans la saison des fêtes. Que vous soyez du genre à tout planifier des semaines à l'avance ou à garder ces moments de retrouvailles les plus simples possibles, la plupart d'entre nous profitons de cette période pour entretenir les liens avec les gens qu'on aime. De la bonne nourriture, des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, sans compter les échanges de cadeaux, il y a de quoi créer des souvenirs précieux. Puisqu'on en parle, êtes-vous curieux de savoir comment votre cerveau s'y prend pour les mémoriser ? Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'hippocampe, cette petite structure qui joue un rôle crucial dans la mémorisation. Lorsque nous sommes exposés à une nouvelle information, certains neurones de l'hippocampe, particulièrement excitables, vont s'activer simultanément. En neurosciences, il existe un célèbre paradigme qui dit « Les neurones qui s'activent ensemble, s'associent ensemble ». En effet, ces neurones vont modifier leur connexion synaptique après cette première activation, de telle manière à ce qu'ils puissent se réactiver les uns les autres plus efficacement par la suite. Ils forment ainsi un réseau représentant la trace neurologique d'un souvenir, que la communauté scientifique appelle un engramme, du grec ancien « gramma » qui désigne une inscription. La réactivation complète de l'engramme est nécessaire pour se remémorer le souvenir correspondant. Si les connexions entre les neurones de l'engramme se détériorent, le souvenir se perd. À l'échelle cellulaire, les modifications doivent également être mémorisées pour être maintenues. Le souvenir peut ne pas être réactivé pendant de longues périodes, et les neurones engrammes peuvent créer des connexions avec d'autres neurones entre-temps. Alors, qu'est-ce qu'on modifie ? L'expression des gènes qui orchestrent la formation des synapses, bien sûr. Imaginez une pelote de laine faite d'un fil très fin et long d'environ 2 mètres. Voilà à quoi ressemblerait la molécule d'ADN contenue dans chacune de vos cellules si elle était entièrement déroulée. Pour la faire tenir dans un noyau qui fait seulement quelques micromètres de diamètre, il faut que cette pelote soit très compactée. Imaginez maintenant une myriade de petites bobines autour desquelles on enroule l'ADN. Dans nos cellules, les bobines sont des complexes protéiques appelés histones. Si elles sont très resserrées les unes contre les autres, l'ADN enroulé autour des histones n'est pas accessible par la machinerie cellulaire, ce qui veut dire que les gènes qui s'y trouvent ne peuvent pas être exprimés. A l'inverse, si les histones sont plus espacées, l'expression des gènes qui se trouvent dans l'écart ainsi formé devient possible. Comble de la commodité, il se trouve que les histones peuvent être modifiées pour faciliter ou limiter l'accès à l'ADN de façon très dynamique. Voilà l'un des mécanismes les plus étudiés en épigénétique. L'épigénétique, du grec « épi » qui signifie « au-dessus », c'est l'étude des mécanismes qui modifient l'expression des gènes sans modifier la séquence ADN en elle-même. Lorsqu'une cellule reçoit un signal lui indiquant qu'elle doit changer l'expression de ses gènes, ce sont des mécanismes épigénétiques qui permettent de maintenir ces changements sur le long terme. Lorsque des neurones créent des connexions entre eux, les gènes impliqués dans la production et le maintien des synapses doivent être exprimés davantage. C'est en partie grâce aux histones autour de ces gènes qui s'écartent et maintiennent l'espace entre elles, et aussi grâce aux marqueurs qu'elles exhibent pour indiquer à la machinerie cellulaire où commencer la lecture de l'ADN. On sait déjà que cette mémoire cellulaire est impliquée dans la mémoire cognitive. Plusieurs études décrivent les effets positifs sur la mémoire du blocage de certaines enzymes qui restreignent l'accès à l'ADN en ciblant les histones. Mais il s'agit là de blocages à l'échelle de tout le génome. Pour comprendre l'effet des mécanismes épigénétiques sur la mémoire, il faudrait pouvoir cibler directement les gènes impliqués, par exemple dans la formation des synapses. C'est pour relever ce défi que le laboratoire de neuroépigénétique de l'École polytechnique fédérale de Lausanne s'est inspiré de la technologie CRISPR-Cas9. L'équipe a mis au point une méthode permettant de favoriser ou d'inhiber l'expression d'un gène cible, connu pour être impliqué dans la mémoire. Ils ont ainsi réussi à moduler la consolidation de la mémoire chez la souris. Aujourd'hui, nous partons explorer la mémoire à dos de Cas9. Étape 1. Quesaco-CRISPR. Si le terme CRISPR vous dit quelque chose, c'est que vous avez sûrement entendu parler de ciseaux moléculaires dans les années 2010. CRISPR est un acronyme anglais qui fait référence à une sorte de système immunitaire présent chez certaines bactéries. En effet, comme nous, les bactéries peuvent être victimes d'attaques virales. On appelle d'ailleurs ces virus des bactériophages. Comme chez nous, le virus injecte son matériel génétique dans la bactérie et manipule sa machinerie cellulaire pour se reproduire. Pour pallier ce problème, de nombreuses espèces bactériennes ont développé un système ingénieux. Si une séquence d'ADN étranger est détectée, elle est fragmentée et un ou plusieurs des fragments sont incorporés dans l'ADN de la bactérie. Elle en fait des ARN guides qui peuvent s'associer à des enzymes qu'on appelle les enzymes Cas. Et lorsque le complexe rencontre une séquence virale qui correspond à un de ces ARN guides, l'enzyme Cas détruit la séquence virale, tuant dans l'œuf la tentative d'infection. En d'autres termes, la bactérie garde en mémoire la trace des virus rencontrés pour les contrer plus efficacement par la suite. En 2012, la microbiologiste française Emmanuelle Charpentier et la biochimiste américaine Jennifer Doudna publient dans la revue Science des travaux qui ont révolutionné tous les domaines de recherche en lien avec la génétique. En modifiant les enzymes Cas issues du système CRISPR, elles ont inventé une technologie capable de couper l'ADN de n'importe quel organisme avec précision, grâce à un ARN guide synthétisable qui dirige l'enzyme Cas vers la séquence souhaitée. Grâce à cette technologie, qui leur a valu le prix Nobel de chimie en 2020, de nombreux traitements pour guérir des maladies génétiques sont en cours de développement. Un traitement contre la drépanocytose, maladie qui déforme les globules rouges, est d'ailleurs sur le point d'être testé sur des patients en Inde. En recherche fondamentale, il est désormais beaucoup plus simple de modifier génétiquement des cellules ou des organismes pour étudier les interactions entre les gènes et la physiologie, le comportement ou l'environnement. Mais ce n'est pas tout. Si l'on peut cibler une zone précise dans l'ADN, comme le début de la séquence d'un gène qui nous intéresse, on peut en profiter pour réguler son expression. C'est exactement ce que nos chercheurs ont fait ici. Ils ont associé une version modifiée de l'enzyme Cas9, qui ne peut plus couper l'ADN, avec deux groupes de protéines différents. Le premier favorise l'expression génétique, le deuxième la réprime. Astucieux, non ? Ils ont ainsi obtenu un outil capable de cibler n'importe quel gène d'intérêt et d'en augmenter ou diminuer l'expression. Maintenant, reste à savoir quel sera notre gène d'intérêt. Étape 2. Le gène ARC. Parmi les gènes activés lors de la formation d'un souvenir, ou plus précisément ici d'un engramme, ARC se distingue des autres par l'état de l'ADN autour de sa séquence. Il est naturellement plus accessible à la machinerie cellulaire que d'autres gènes ayant un effet similaire. ARC est déjà bien connu de la communauté scientifique pour sa participation à la formation de synapses, à savoir les connexions entre les neurones. On sait également qu'il est essentiel à la formation des souvenirs chez les souris, en particulier ceux associés à la peur. Le gène ARC est donc le candidat idéal pour tester l'effet de l'outil conçu par nos chercheurs à la fois sur la régulation épigénétique d'un gène et sur la mémoire. Commençons par une expérience simple. Si on cible le gène ARC avec l'outil Cas9 pour en empêcher l'expression pendant la formation d'un souvenir, on s'attend à une moins bonne mémorisation. D'autres études l'ont déjà démontré avec des méthodes différentes. Si l'outil de nos chercheurs fonctionne, il devrait avoir le même effet. Pour tester la mémorisation liée à la peur, des souris sont placées dans une boîte dans laquelle elles reçoivent 3 chocs électriques. Ce n'est pas dangereux, mais assez effrayant. En étant replacées dans cette boîte, les souris, se souvenant de ce qui leur est arrivé, vont se figer plus longtemps que dans un environnement auquel elles n'associent pas de souvenirs désagréables. C'est ce temps de freeze qui permet de mesurer la peur et la mémorisation. L'outil Cas9 est donc injecté dans l'hippocampe des souris 2 semaines avant l'expérience. Pour bloquer l'expression de ARC, il est accompagné d'un ARN qui le guide vers sa séquence. Dans le groupe contrôle, Cas9 est accompagné d'un ARN spécifique d'une région qui n'a rien à voir. Résultat, lorsqu'elles sont replacées dans la boîte 2 jours plus tard, les souris du premier groupe se figent moins longtemps que celles du groupe contrôle. Les deux groupes réagissent de la même manière dans un nouvel environnement neutre, ce qui indique que l'effet observé n'est pas dû à une augmentation générale de l'anxiété. Pour vérifier si l'effet de l'outil Cas9 sur la mémoire est lié à des mécanismes épigénétiques, des analyses moléculaires sont effectuées autour de la séquence du gène ARC. L'équipe constate que les histones autour du gène portent moins de marques favorables à son expression. Autrement dit, l'outil conçu par nos chercheurs influence donc la mémoire au travers de mécanismes épigénétiques.
Boulon manquant sur Radio Campus Paris.
Étape 3. Encore plus loin. En résumé, nous avons une enzyme inspirée du système CRISPR qui ne coupe pas l'ADN, mais peut toujours en cibler une séquence précise. L'astuce de l'équipe de Lausanne a été de combiner cette propriété à celle d'autres protéines pour contrôler l'expression du gène ARC, soit pour l'augmenter, soit pour la réduire. Les premières expériences montrent que ça a bien un effet sur la mémoire et que leur outil mobilise des mécanismes épigénétiques. À partir de là, on peut supposer que ces effets sont ainsi maintenus dans le temps. Les chercheurs se sont ensuite demandé s'ils pouvaient s'en servir à d'autres étapes de la mémorisation. L'outil Cas9 peut-il avoir un effet après la formation du souvenir? Son effet est-il réversible? Peut-on l'utiliser pour améliorer la mémoire après que le souvenir ait déjà été consolidé dans l'hippocampe? Pour les deux premières questions, les chercheurs injectent avec leur outil une enzyme qui bloque l'action de Cas9. Après que les souris aient été exposées au choc électrique, Cas9 est activé pendant 4 jours. Une première exposition à la boîte permet de vérifier que les souris ont gardé en mémoire ce souvenir. Maintenant, elles sont séparées en 2 groupes. Dans le premier, l'enzyme anti-Cas9 est activée. Le gène ARC n'est donc plus surexprimé grâce à l'action de leur outil. Dans le deuxième groupe, Cas9 reste active. Lorsque les souris sont replacées dans la boîte 3 jours plus tard, les intuitions des chercheurs sont confirmées. Les souris du deuxième groupe, pour lesquels le gène ARC est resté surexprimé sous le contrôle de Cas9, ont mieux retenu l'événement effrayant que celle du premier groupe. En fait, la différence de comportement entre la première et la deuxième exposition observée chez les souris du deuxième groupe est très similaire à celle observée chez des souris contrôle, à qui aucun produit n'a été injecté. Un léger oubli avec le temps est naturel, et l'inactivation de Cas9 reproduit cet effet. Ces observations confirment 2 choses sur leur outil Cas9. Premièrement, il peut renforcer la mémoire liée à la peur même après que le souvenir ait été formé. Deuxièmement, son effet est réversible. Finalement, l'équipe a testé les limites de leur technologie en activant Cas9 7 jours après la formation du souvenir. À ce stade, il n'est pas seulement formé, il est déjà consolidé dans la mémoire. Dans le groupe contrôle, Cas9 est également activé, mais est associé à un ARN guide qui l'amène dans une région qui n'a rien à voir avec le gène ARC. Bien que la différence entre le groupe test et le groupe contrôle ait été moins marquée, les souris du groupe test ont été plus longtemps figées dans la boîte que celles du groupe contrôle. Et inversement, Lorsque Cas9 est utilisé pour réprimer l'expression du gène ARK, les souris se figent moins longtemps. Ensemble, ces expériences démontrent que l'outil conçu par l'équipe de Lausanne peut renforcer ou déstabiliser l'engramme d'un souvenir pendant sa formation, après et même au-delà, lorsque les neurones engrammes sont déjà stabilisés. Et ce, en ne ciblant l'expression que d'un seul gène, sans le modifier, grâce aux mécanismes épigénétiques que leur outil mobilise. La décennie qui a suivi la parution des travaux sur CRISPR-Cas9 en 2012 a vu exploser les technologies pour modifier l'ADN à des fins de recherche fondamentales ou appliquées. Des techniques existaient déjà avant, mais elles ne rivalisent pas avec la précision et le large champ d'application de CRISPR. Un principe révolutionnaire qui n'est toutefois pas infaillible. L'ADN peut être une très longue molécule avec plusieurs séquences différentes qui peuvent se ressembler. C'est encore plus vrai pour les organismes portant plusieurs copies d'un même gène, comme nous, qui portons 23 paires de chromosomes. Chez les poissons et de nombreuses espèces de plantes, tout leur ADN a été dupliqué au cours de leur évolution, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces espèces portent beaucoup de gènes paralogues, dont les séquences sont parfois très similaires, mais qui ont des fonctions différentes. Aucune enzyme n'ayant une spécificité parfaite pour sa cible, ces conformations d'ADN complexes peuvent être modifiées ailleurs que dans la séquence souhaitée par les enzymes Cas. De l'agriculture aux thérapies, tous les domaines de recherche liés à la génétique ont bénéficié des développements pour améliorer la spécificité et la flexibilité du système CRISPR. L'étude d'aujourd'hui s'en inspire d'une manière originale. Au lieu de modifier la séquence d'un gène connu pour son rôle dans la mémoire, elle s'en sert pour faire intervenir des mécanismes épigénétiques sur ce gène uniquement. Grâce à ces mécanismes seuls, l'équipe de Lausanne a réussi à moduler la stabilité d'un souvenir dans le temps. Leurs travaux démontrent également l'importance du gène qu'ils ont choisi pour tester leur outil. À chaque étape de la vie d'un engramme dans l'hippocampe, les changements d'expression du gène ARK peuvent influencer les connexions entre les neurones impliqués et la mémorisation qui s'ensuit. Peut-être que dans la prochaine décennie, l'outil qu'ils ont créé inspirera des thérapies pour les neuropathologies liées à la perte de mémoire. En attendant, il ouvre la voie à des études dans tous les domaines intéressés par la mémoire cellulaire, puisque cette dernière est essentiellement régulée par l'épigénétique. Dans un contexte proche de leur étude, ils pourraient par exemple servir à étudier le rôle de l'épigénétique dans la mémoire traumatique. En immunologie, des études récentes ont démontré que les cellules du système immunitaire inné, qui servent de première défense à notre organisme avant l'action des anticorps, sont également capables de modifier leur comportement à la suite d'une exposition à des antigènes. Cette mémoire cellulaire est très probablement liée aux réactions allergiques et aux maladies inflammatoires, mais pourrait également être impliquée dans notre réponse au vaccin. Si on parle de bouleversement de paradigme en recherche, l'épigénétique n'est pas en reste. On savait déjà que l'expression de nos gènes est un processus très dynamique, régulé à chaque instant par des facteurs complexes qui prennent en compte de nombreux signaux de l'environnement et de la cellule. Maintenant, on sait aussi que l'ADN est une structure tridimensionnelle dont la forme est activement régulée, ce qui a un impact crucial sur l'expression de nos gènes. Si la configuration de l'ADN est modifiée dans nos cellules reproductives, elle peut même être transmise à notre descendance, au même titre que les mutations génétiques. C'est un autre niveau de complexité influencé par notre environnement, notre histoire de vie et qui influence à son tour notre physiologie et notre comportement. Des études comme celle d'aujourd'hui nous donnent l'espoir qu'un jour, nous parviendrons à relier les points entre tous ces niveaux d'interaction. Sur ce, je laisse vos neurones réarranger leurs histones pour faire de la place à toutes ces bonnes nouvelles. Et vous souhaite une bonne soirée en attendant le prochain épisode.
C'était Boulot Manquant. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur Radio Campus Paris 93.9 FM.